Vous êtes sur RTL.
Si se balade, hein.
Oui, mais c'est très compliqué d'aller travailler, de revenir. C'est vraiment, c'est un parcours du combattant, donc on lui passera un petit coup de fil. L'autorité parentale est de moins en moins là. Il faut responsabiliser les parents. Il faut arrêter de se mettre toujours du côté de l'enfant. C'est ce que disait le ministre de l'Intérieur ce matin, Gérald Darmanin. Évidemment, après les violences dans les quartiers, parce que ce sont souvent des jeunes qui attaquent les policiers. Didier est avec nous. Vous êtes maire des Républicains de Fontvannes, dans l'Aube.
Oui, dans l'Aube en Champagne, Pascal, tout à fait.
Donc, est-ce que vous constatez ça sur le terrain ?
On va faire simple, qu'on soit dans les quartiers, j'y ai grandi, qu'on soit en ruralité, je suis un maire de la ruralité. Le sujet de l'éducation, c'est un sujet de continuité éducative. Le jeune, il fait ce qu'on lui montre, ce qu'on lui apprend, ce qu'on fait avec lui, l'image qu'on donne. Donc aujourd'hui, c'est clair qu'on peut parler d'autorité parentale. Mmh. C'est le premier lieu de l'éducation, c'est le lieu de c'est la cellule familiale.
Hein. Et oui, mais si elle n'existe plus.
Eh ben, si elle n'existe plus.
Parce que la société a changé. Nous, on a grandi dans les années 60-70 avec un père et une mère. Souvent aujourd'hui, les couples sont séparés et les enfants parfois livrés à eux-mêmes.
Oui, Pascal, une anecdote. Je me suis fait, un jour en banlieue parisienne, je me suis fait bicher tout dans ma bagnole.
Vous êtes fait comment, vous avez dit ?
Je me suis fait prendre mon matériel de travail, mon ordinateur, mon vidéoprojecteur, ma valise et tout. J'ai pu retrouver, j'ai eu une adresse et j'ai pu me rendre auprès de la personne qui avait fait ce coup-là. Tu sais ce que m'a dit sa sœur qui m'a ouvert la porte ? Elle me dit, monsieur, vous êtes un maire, vous êtes quelqu'un d'engagé, j'ai beaucoup de respect pour vous. Que voulez-vous faire quand nos gamins, ils chient dans l'ascenseur que leur mère lave ? À un moment donné, quand nos jeunes déconnent, quand les parents ne sont plus en capacité de montrer le chemin à leurs gosses, il y a le rôle de l'élu, il y a le rôle du responsable associatif, il y a le rôle des responsables économiques. Encore une fois, il y a la cellule familiale, il y a l'endroit où le gamin, on lui transmet le savoir, l'école, et puis il y a l'espace de sociétal, où faut plutôt se retrouver sous la cabane de car, avec je passe avec quoi, hein, ou de fumer quoi que ce soit. Si le gamin il fait du théâtre, si le gamin il fait du gazette, s'il fait du foot, c'est là où tout l'enjeu de notre société, où tous ensemble on doit assurer ce qu'on appelle la continuité éducative, qu'emmène le jeune vers la confiance, vers l'exemplarité, vers la société, et qui va le préparer demain, être père de famille, chef d'entreprise, responsable associatif ou élu. Voilà. Le sujet est clair, c'est un sujet collectif, c'est pas seulement le sujet des parents. S'il y a défaillance à un moment donné de l'un ou de l'autre, c'est au collectif de prendre à bras le corps le sujet.
J'entends ce que vous dites, mais forcément, c'est compliqué pour la société de prendre le relais là où l'autorité parentale est défaillante. Gaëlle est avec nous également, qui habite dans le Val d'Oise. Bonjour Gaëlle.
Bonjour
à
tous.
Peut-être pouvez-vous échanger avec Didier sur ce sujet.
Eh ben, j'avoue que ça me surprend. Effectivement, l'éducation de nos enfants, c'est le rôle de tous, mais c'est avant tout le rôle des parents. Et pour y avoir été confrontée plusieurs fois quand mes enfants étaient en primaire, voir des parents se déplacer parce que leur enfant est roi et que leur enfant ne doit pas être puni, on sabre l'autorité déjà des maîtres en maternelle, du maître en primaire et des professeurs au collège. Moi, j'ai vu des professeurs avoir peur de recevoir des parents parce qu'ils savaient très bien que ils avaient collé leur enfant et que du coup, les parents allaient arriver colère. Donc, oui. Effectivement, l'éducation doit commencer au sein même de la famille, mais on a aussi cet effet d'enfant roi, où du coup, on ne veut pas qu'on touche à nos petits-enfants, on ne veut pas ceci. Comme vous le disiez si bien, dans les années 60, je suis désolée, je ne suis pas de cette époque, hein, mais les parents, enfin l'élève rentrait avec une punition, les parents soutenaient le professeur, et à la limite, si l'enfant râlait trop, on en prenait une deuxième.
Ah, ça c'est sûr.
Voilà, ma maman m'a éduquée comme ça. Moi, j'ai toujours dit aux enfants, si un jour le maître se fâche contre vous, c'est même pas la peine de venir me le rapporter, parce que vous allez prendre une soufflante aussi de mon côté.
C'est bon. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le problème de l'autorité, par exemple pour les profs, c'est pas tant les élèves parfois qui la contestent que les parents des élèves qui la contestent.
Oui, mais du coup, les enfants ont un certain sentiment d'impunité, et plus ça va, plus ils montent dans les classes. Et plus ça va, plus ils n'ont aucun respect, ni pour les professeurs, ni pour leurs parents, ni même pour l'uniforme. Parce que bon, effectivement, qui n'a pas râlé après un gendarme ou un policier qui vous a rouspété parce que vous avez grillé le stop, hein, on le fait tous plus ou moins dans nos voitures. Et c'est vrai que nos enfants le reproduisent. Mais en plus, avec ce sentiment d'impunité, il n'y a plus de barrière. ils ont plus de barrières, ils ont plus de repères. Alors c'est bien les associations, oui, mais tous les quartiers ou tous les villages ne peuvent pas en avoir. Et les professeurs, bah, c'est pareil, ils commencent à baisser les bras parce qu'ils disent qu'il y a des choses. C'est pas leur rôle, c'est au rôle des parents. Mmh.
Non mais c'est un climat général que l'autorité... On va pouvoir continuer la discussion après une page de publicité. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Et Laurent Tessier, en attendant le débrief, parce que je sais que vous commencez déjà à penser au débrief. Et le débrief,
c'est parti.
Vers 14h20, c'est un grand moment de cette émission. Et vous allez collecter tout ça, donc il faut que je fasse attention aux bêtises, même quand
non,
je parle avec l'ami Grégory.
Au contraire,
Grégory.
Lâchez-vous.
Ben non, hein, Grégory, on fait gaffe. Hein,
oui, on fait très attention. Et d'ailleurs, là.
On fait passer pour.
Vous avez hâte d'arriver au débrief alors que l'émission vient de commencer, je ne sais pas comment on doit le prendre. Hein.
Mais non, je
le sais. Qu'elle se termine, quoi.
Pas du tout, j'ai hâte d'entendre Laurent Tessier surtout. Allez-y Laurent.
Et on a hâte aussi d'entendre les auditeurs, vous au 3210, sur les violences, le sentiment d'impunité. Quelle est la responsabilité des parents? L'autorité parentale est-elle de moins en moins présente? Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, était l'invité de RTL ce matin avec Alba Ventura.
L'autorité parentale est de moins en moins là. Mais moi je pense qu'il faut responsabiliser les parents. Déjà tenir un discours. Mais déjà tenir un discours politique de dire que quand il y a notamment le drame de l'affaire Youri, ce n'est pas la faute ni de la mairie de Paris, ni de l'État, ni des policiers, ni des gendarmes, ni du ministre de l'Intérieur, ni du président de la République, ni des oppositions. C'est la faute de parents qui n'élèvent pas bien leurs enfants. Et puis quand les policiers font des choses, il faut les soutenir. Quand les professeurs disent des choses, il faut les soutenir. Il faut arrêter de se mettre toujours du côté de l'enfant.
Les enfants rois sont nombreux désormais, déplore Bernard sur la page Facebook de l'émission. À force de nous faire la morale sur la façon d'éduquer nos chers bambins sans aucune autorité, on en arrive là, rajoute Sylvain. Les parents doivent payer, demande Véro, pour toutes les casses de leurs enfants. Et on a oublié qu'on avait des droits, mais surtout des devoirs, écrit Gabin sur nos réseaux sociaux. Que de laxisme parental de nos jours. S'énerve encore Micheline, j'ai déjà vu un enfant de 5 ans insulter ses parents et ça les fait rire. Gilles parle d'un manque de respect de la police, des pompiers, des professeurs et l'autorité parentale est inexistante, critique Daniel sur la page Facebook.
Nous sommes donc avec Gaël, avec Didier, et c'est vrai que l'autorité c'est un serpent de mer, parce que depuis des années on dit les mêmes choses et c'est vrai que l'autorité elle a changé et que si vous tirez le fil de l'autorité, bah, vous avez une part d'explication de la société française. C'est vrai à l'école, c'est vrai dans une rédaction, c'est vrai dans un vestiaire de football, c'est vrai partout. Alors Yves est là aussi et Yves va pouvoir continuer avec Gaël, avec Didier, pourquoi pas, à nous donner son avis. Bonjour Yves.
Bonjour Pascal. Oui, ben, là, je reprendrai un petit peu les propos de la personne précédente, parce que moi j'interviens en collège, entre autres. Et je peux vous dire que sur une classe d'environ 30 élèves, le matin, vous avez à peu près le tiers qui somnole.
Alors, ah, question, ça c'est ennuyeux.
Oui, mais pourquoi somnole-t-il?
Vous connaissez la réponse.
Oui, tout à fait, parce que moi je les interroge. Et la réponse est toujours la même, elle est invariable, c'est-à-dire on a fait de l'internet, du chat, comme on dit maintenant, jusqu'à point d'heure.
Mais oui, mais c'est aux parents d'entrer dans les chambres à 9h, de piquer les écrans et les portables et de les laisser dormir, qu'est-ce que vous voulez que je dise?
Non mais attendez, laissez-moi terminer s'il vous plaît. Simplement, moi j'interroge l'élève, je dis mais tes parents, qu'est-ce qu'ils disent? Ben ils disent rien, ils le savent, ils me laissent faire. Comment ça, ils se lèvent? Ben oui, pour eux, c'est tout à fait normal. Alors après, quand vous avez le professeur, parce que moi, j'interroge aussi les professeurs, qui signalent aux parents que l'élève, il est régulièrement dormi, ben les parents disent, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Voilà des réponses qui sont données de la part de parents. Bon, alors après, on s'étonne qu'il n'y ait plus d'autorité parentale. Mais évidemment qu'il n'y a plus d'autorité parentale. Dans ces conditions, il n'y en a plus du tout. Et vous aviez raison, Pascal, en disant que ce phénomène d'autorité remontait quand même à plusieurs années. Moi, j'ai habité à Sevran, en Seine-Saint-Denis, en HLM, bon, il y a bien longtemps. Mais de plus en plus, au fil des années, ben, j'ai vu de plus en plus de gamins désœuvrés, tout seuls, traînant jusqu'à 22h, des mineurs. J'entends bien des mineurs. Bon, ben, ces gamins ont quand même des parents.
Bon. Mais parfois, non, justement, et c'est bien le problème. C'est-à-dire qu'ils ont des parents, mais qui ne vivent pas forcément ensemble. Et c'est parfois compliqué pour la mère qui
Pascal,
est seule, parce que c'est un schéma souvent classique.
Je suis d'une famille monoparentale, Pascal. Ah oui, mais... ma mère a divorcé avec mon père quand j'avais 9 ans.
Mais bon, vous avez 67 ans, Yves. Et le monde n'est plus le même. C'est
ça
qui est
terrible. Je suis d'accord. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais moi, je livre un simple constat. Là, en ce moment, dans les collèges, ce que j'ai dit, c'est encore, je suis gentil, parce que moi, j'ai déjà vu des élèves insulter des professeurs. Et les parents, bon, bah, apparemment, je m'étais renseigné sur la suite donnée, bah, les parents trouvaient ça tout à fait normal. Bah, vous avez dû faire quelque chose à mon gamin. Voilà. Mmh. Voilà, ça, c'est le genre de situation.
Mais au-delà du constat, c'est les solutions qu'on n'a pas, parce que je ne suis même pas sûr qu'elles existent. Je ne sais pas ce qu'en pense Gaël, par exemple, qui écoute.
Bah, non, effectivement. Enfin, il n'y a pas de solution. Moi, je suis d'accord, je rejoins tout à fait l'auditeur. C'est pareil, hein, maman m'a élevée toute seule. Moi, j'ai la chance d'être en famille, de constituer une famille recomposée, donc en plus avec des caractères quand même bien trempés, différents, des éducations qui venaient de milieux différents, puisqu'il y avait mes enfants et ceux de mon époux. Eh ben oui, c'est vrai qu'on a joué le gendarme, on a sévi. Ils n'ont pas toujours été d'accord, hein, les enfants, même pas du tout. Mais c'est pas grave, on n'a pas lâché. On n'est pas là pour être copains au départ avec eux. Donc non, il y a un modèle parental qui se perd. Et effectivement, maintenant, ben, que ce soit les maîtres ou au collège, hein, les parents, ben, ils prennent le dessus sur les professeurs. Je ne vois pas pourquoi les professeurs feraient de l'éducation des enfants si les parents ne le font pas. C'est aux parents
c'est
de dire
rôle.
Le soir, vous éteignez.
Bah,
le soir, vous
oui,
éteignez,
ils peuvent être en appoint, mais c'est sûr que...
Bah, le milieu scolaire est là pour dispenser un
c'est
savoir.
Yves qui parle.
Il est pas là pour
voilà.
Oui, c'est Yves. Et il est pas là pour enseigner les bonnes manières, si vous me permettez l'expression. Les parents ont un rôle à jouer. Quand le gamin va dans une école, un collège, un lycée, ce que vous voudrez, n'importe quel établissement scolaire, le rôle de l'établissement scolaire, c'est de dispenser un savoir, des connaissances, de former, mais pas d'enseigner les bonnes manières. Les parents sont en première ligne. Et en fait, ils n'y sont plus. De moins en moins, en tout cas. Voilà ce que je constate. Oui, je suis tout à fait d'accord avec l'auditrice.
Didier, qui est maire de Fontvannes.
Qui abreuve les Parisiens pour 25% en eau. Alors moi, quand on parle des enfants rois, ça me gêne un peu, parce que mon nom, c'est Le Prince. Je te l'ai déjà dit, donc, mais c'est pas grave. Ça, c'était pour le clin d'œil. Quand on parle d'éducation, encore une fois, l'éducation, c'est un grand E, c'est une éducation, c'est la continuité d'éducation. Il se peut qu'à un moment donné, le gamin soit en dérive à l'école, oui. Souvent, effectivement, du coup, ça crée problème aussi dans l'espace familial. Mais encore une fois, les enfants qu'on évoque, là, qui déconnent en classe, qui insultent, qui cassent le bien public, moi, je connais pas de garçons qui sont dans mon club de judo, dans mon club de foot, qui sont à la musique, à l'école et autres. Ces jeunes-là, ils cassent pas, ils respectent. Donc, à un moment donné, encore une fois, l'espace dans lequel le jeune se construit, dans la cellule familiale, dans la cellule scolaire, dans la cellule socio-éducative, sportive et culturelle, eh ben, on s'aperçoit que le gamin, effectivement, il a différents types d'apprentissage et il respecte les valeurs de la République.
Il est oui, là, parce qu'il est pris en charge.
C'est quand
il
on
est pris en charge.
Mais oui, mais qu'à un moment
oui,
donné,
non, mais...
le jeune... On peut pas demander à un moment donné... On inverse les rôles, maintenant. Finalement, ça va être les gamins qui vont être maires, c'est les gamins qui vont être enseignants, c'est les gamins qui vont être chefs d'entreprise. Non, mais attendez, il faudrait savoir qu'à un moment donné, c'est l'adulte qui doit se prendre en charge.
Oui, Didier, mais ça fonctionne, hélas, ça fonctionne hélas pas toujours comme ça. En tout cas, merci Didier, Gaël et Yves. Et c'est vrai qu'une idée, en tout cas pas une idée, mais une solution, c'est souvent au moins le sport qui peut permettre à ces enfants-là de retrouver... Oui, puis de retrouver la discipline. Parce que
oui,
le sport,
oui,
voilà, de se socialiser, de retrouver le goût de l'effort, la discipline, etc. Et c'est vrai qu'en fait, ils sont très demandeurs en plus, les enfants. Ils sont très demandeurs,
oui,
c'est ça le paradoxe, on le sait tous.
Vous avez raison, Pascal, ils sont demandeurs d'une certaine discipline, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
Ils
oui,
adorent
mais
ça.
Tout à fait, mais tout à fait, je suis entièrement
d'accord. Et ça les équilibre, ça les rassure, les enfants adorent ça. Et c'est souvent triste pour ça, parce que ces enfants-là, ils sont, c'est d'abord... Et paradoxalement, hein, les premières victimes, bien sûr.
Okay, nous sommes d'accord, ça c'est clair.
Bon, l'autorité, on continue d'en parler, de ce qui se passe dans les banlieues. Grégory Caradoni, on parlera quand même, c'est Mardi Gras aujourd'hui.
Oui.
C'est donc une fête chrétienne, comme vous le savez. Et je m'aperçois, est-ce que vous êtes déguisé pour Mardi Gras?
C'est à vous de me dire.
Non, j'ai pas l'impression que vous l'êtes aujourd'hui.
Ah,
donc,
d'habitude, oui.
Mardi Gras, c'est avant mercredi décembre, avant le début du carême, 47 jours avant Pâques, et tous les chrétiens vont manger maigre, comme on disait jadis, donc ils vont s'abstenir de viande, et puis il y aura la mi-carême au milieu du carême. Est-ce que vous avez une petite playlist Mardi Gras à nous proposer?
Après
pour
carême, d'ailleurs, on arrivera au mois de juin, puis au mois de juillet,
oui.
Puis en août.
Oui.
Puis on ne sait pas.
Mais pourquoi vous dites
ça? Parce que comme vous faites la liste de ce qui va suivre...
Il y aura le carême, il y a Pâques, et puis après, il y a toutes les fêtes chrétiennes. Je parlais des fêtes chrétiennes.
Oui, je vous chambre un peu, j'ai ça aussi.
Donc ça sera notre petite playlist, si vous voulez. D'abord, est-ce qu'il y a encore, et on peut poser la question, des gens qui font le carême? Voilà, est-ce qu'il y a encore des chrétiens qui vont manger maigre? Ça m'intéresse de poser cette question. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
C'est un vaste sujet, l'éducation des enfants. Je me souviens d'Aldo Naouri, qui est un psy célèbre, qui disait que le problème dans les banlieues, c'est l'absence de père, puisque les pères, parfois, n'avaient pas forcément de travail, donc eux-mêmes n'avaient pas le rôle que doit avoir un père, parce qu'effectivement, si il est lui-même en difficulté sociale, économique, ben, il est en difficulté tout court, et parfois il n'est plus là, parfois il est parti. Donc c'était des enfants rois qui grandissaient sans autorité du père. Alors, c'était son analyse, elle vaut ce qu'elle vaut. Philippe est là, bonjour, qui est directeur d'usine en Moselle.
Bonjour Pascal.
L'autorité parentale.
Bah écoutez, j'ai entendu des choses très intéressantes là qui viennent d'être dites, y compris ce que vous venez de raconter là à propos de Pascal Naouri. Moi, j'ai vécu.
C'était Aldo Naouri. Aldo,
pardon. Mm. Moi, j'ai vécu dans une banlieue qu'on considère aujourd'hui comme un quasiment comme un ghetto. C'est ce que ça s'appelle le Verbois à Saint-Dizier, c'est-à-dire entre Nancy et Paris. Et j'ai eu beaucoup d'amis. D'ailleurs que des garçons, parce que les filles, on ne les voyait pas, qui étaient d'origine maghrébine, qui étaient extrêmement bien intégrés. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme les auditeurs l'ont dit, c'était tous des enfants rois, les garçons. C'était des enfants rois, sauf qu'à l'époque, les parents travaillaient. Il y avait maman à la maison, les papas qui travaillaient. Et, ils arrivaient à subvenir à leurs besoins. Et puis l'école se chargeait du reste, alors non pas au niveau de la manière de vivre, parce qu'ils étaient très bien élevés, ces jeunes-là, il n'y avait vraiment rien à dire, mais au niveau de l'ouverture sur la vie d'adulte. Aujourd'hui, moi, mes copains tunisiens et marocains, ils me racontaient que leurs parents, quand ils étaient petits, qu'ils avaient 14 ans, ils étaient aussi élevés comme des enfants comme ça, même si la vie était plus dure qu'est-ce qu'elle fut après. Il y avait toujours un sage du village qui après les mettait dans le droit chemin en leur expliquant leurs responsabilités, les causalités dans la société, le fait de faire du mal à quelqu'un, ce que ça peut rapporter derrière, et ainsi de suite. J'ai entendu tout à l'heure que dans les familles monoparentales, ce rôle n'était tenu par personne et que des fois, même en ayant un père, ce rôle n'était pas tenu. Je suis tout à fait d'accord avec cette vision. La famille est le premier responsable de l'éducation. C'est pas. J'ai été prof moi-même avant d'être ingénieur. À l'époque, bon, c'était il y a fort longtemps, hein, on était très respectés, on pouvait parler aux parents et les parents nous écoutaient. Dans le milieu où je vis aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis qui sont profs d'université, instituteurs ou même en maternelle. C'est l'enfer, c'est l'enfer. Les parents sont systématiquement suspectés. Les profs sont les instituts, les maîtres sont systématiquement suspectés par certaines personnes de pas vouloir aider les enfants. Et c'est toujours les enfants pour raison. Et ça.
Mais c'est la société qui a changé. Alors, avant, c'était terrible parce que le prof avait toujours raison. On est passé d'un extrême à l'autre, d'ailleurs, parce que c'était parfois rude. Hein. Les profs tapaient les élèves. Hein. Moi, je l'ai connu, moi, dans les années 71, 72, 73. J'ai vu des profs mettre des claques à des élèves. Mais aujourd'hui, il est en prison, le prof qui fait ça. Oui. En tout cas, il est suspendu de toute activité.
C'est à partir de mai 68 que les choses ont changé sur ce sujet, mais là, c'était trop, hein, dans l'autre sens.
Les punitions étaient corporelles, parfois, les châtiments étaient corporels.
Violent. Absolument, c'était atroce, d'ailleurs. Hein.
Atroce.
Vous pouviez aller toute l'année en classe en étant terrorisé par un instituteur.
Bien sûr.
Moi j'ai connu ça. Hein.
Il y avait un prof qui mettait les élèves sur une règle en fer, les règles pour tracer des traits quand j'étais enfant, et un élève qui avait été, qui s'était mal conduit. Plus les brimades, plus les humiliations, c'était une autre époque, je ne peux pas vous dire autre chose.
Si je peux me permettre, je vais vous raconter une anecdote qui
s'est passée dans
l'éducation nationale française. C'est une amie à moi qui est directrice d'une école primaire. Elle vient de prendre sa retraite avec un soulagement non dissimulé. Un jour, des parents, alors ça n'a rien à voir avec le pays d'origine, hein, des gens très bonne éducation, très haut niveau social. Hein. Ils demandent à l'institutrice, qui est aussi la directrice d'école, si on pourrait mettre des caméras dans les classes pour filmer la journée de classe. Et donner le soir une clé USB avec la vidéo de la journée de leurs enfants aux parents. C'est vous dire le niveau de confiance qu'on a dans
les enfants. Oui, non, mais on est chez les fous, de toute façon. C'est une société, je ne sais pas comment on va finir, mais effectivement, on est chez les fous.
C'est totalement délirant. Il y a un manque de confiance. Néanmoins, l'éducation commence par les parents. Et il y a beaucoup de démissions. Une maman qui est... Moi, je n'ai excusé personne. Mais on peut comprendre qu'une maman qui est toute seule, qui doit travailler, qui a 3 ou 4 enfants, dont 1 ou 2 sont ados, elle a du mal à les maîtriser. C'est difficile.
Bien sûr, les ados. Mais en fait, c'est ça, aimer les enfants, c'est s'en occuper. Et beaucoup de parents démissionnent parce que c'est dur. La vérité, c'est que c'est dur. C'est harassant d'élever des enfants. Voilà. Donc parfois tu démissionnes, tu baisses les bras, tu les laisses devant les écrans, et puis voilà, oui, et puis ça se termine mal.
Des fois, vous pouvez pas faire autrement. Et là, l'association devient intéressante. Et c'est là que la loi contre les séparatistes devient intéressante. C'est que il faut pas que les gamins ils aient l'alternative de l'école laïque française classique et d'une association qui va faire du prosélytisme. Et pour ça, il faut reconquérir les banlieues. Il faut remettre des associations qui sont vraiment laïques et qui accueillent tous les enfants, quelle que soit leur confession. J'ai entendu parler de judo, j'ai entendu parler de foot. Le sport est évidemment une solution.
Bien sûr.
Et l'encadrement, en général, dans les clubs sportifs français, est fantastiquement bien fait. Les gens ne se rendent pas compte à quel point on est vernis en France d'avoir les clubs qu'on
a. Mais merci, Philippe, de cette analyse, et vous verrez avec votre petit garçon Greg, vous verrez qu'il va grandir. Et il y a un truc qui est génial, vous savez, c'est les donneurs de leçons sur l'éducation. Alors ça, je les attends depuis des années. Voilà, ils te donnent des leçons, voilà comment faut faire, voilà comment faut pas faire, et ça. Bon, comme toujours, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle, et c'est très dur d'élever des enfants, très très dur. Donc vous allez voir.
Mais ils sont déjà là, hein. Ces donneurs de leçons, moi j'en ai croisé 2-3. Hein.
C'est vrai.
Tu ne devrais pas faire comme ça.
Voilà, alors ça. Parfois les beaux-parents, la belle-mère. Avec moi, ce ne serait pas comme ça. Voilà. Et ils ne mangent pas de tout. Ah, ils ne mangent pas de tout. Non, pourquoi ils ne mangent pas de tout? Vous allez voir.
Ouais.
Bon, ça se passe bien pour
le
moment.
À temps complet. C'est vrai, il ne faut jamais lâcher en réalité. C'est pas toujours évident
compliqué.
Avec la fatigue, etc.
Et je vais vous dire, c'est le truc le plus dur au monde. Voilà. À côté, travailler être journaliste, c'est 10 fois plus facile qu'élever ses enfants. Moi, je vous le dis.
Vous avez une expérience plus complète que la mienne avec.
Je vous le dis. Et respect pour les femmes. Parfois, on dit ma femme ne travaille pas. Elle est à la maison avec des enfants. Franchement, tu sais ce que c'est qu'être avec la maison avec 3 ou 4 enfants. Bon, on a fini sur l'autorité parentale ou on continue encore? Ça fait réagir.
Il y a quelques auditeurs qui patientent hein, pour intervenir sur ce sujet.
On va continuer. Petite musique peut-être pour Mardi Gras ou pas? Ça, c'est Mardi Gras.
Bah, c'est le carnaval des animaux. Alors voilà, je fais
c'est le carnaval des animaux
Mardi
de Saint-Saëns.
Exactement. Carnaval, ça tout ça. Oui, tout à fait.
Non, c'est pas... Vous êtes sûr?
J'en suis certain. Après, j'ai quelque chose qui peut vous plaire un peu plus.
La vie est un carnaval.
Georges Guettari.
Merveilleux, Georges Guettari.
Je savais que ça vous plairait.
Mais Mardi Gras, c'est pas le carnaval.
Oui, mais on l'associe souvent au carnaval, Mardi Gras.
En portant tout ça de guisement.
Ah, merveilleux, ça, Georges Guettari. Bon, Franck, l'autorité parentale nous attend. Il est architecte d'intérieur. A tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Laurent Tessier à 13h30. A-t-on abandonné certains quartiers face au trafic de drogue? Est-on impuissant face à la criminalité? Y a-t-il des zones de non-droit en France? Samia Ghali, la maire adjointe de Marseille, était l'invitée de RTL ce matin.
Aujourd'hui, dans tous ces quartiers, ce sont des prisons à ciel ouvert. Sauf que les prisonniers, c'est pas ce que l'on croit, c'est les populations. Il y a une cité où carrément les dealers ont envoyé un courrier à tous les habitants, comme un bailleur, pour leur dire, voilà, si vous plaignez encore une fois du trafic, eh ben, on viendra et on brûlera tous les véhicules de la cité.
2 personnes ont trouvé la mort dans une fusillade le week-end dernier à Marseille. Samia Ghali demande au gouvernement d'agir pour sauver la ville des trafiquants.
Quand vous avez des armes de guerre qui sont, achetées comme on achète une paire de baskets, on est face à des cartels. Il manque de la police, il manque des gardes de CRS, il n'y en a pas. Et que la réalité, je parle pour Marseille, hein, j'irais presque la bataille, elle est perdue.
Samia Ghali a raison, lance Eric sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. Oui, les quartiers sont abandonnés depuis 30 ans, la paix sociale a un prix. Ne faites pas les innocents, il est trop tard pour agir. Marie parle d'un échec total de la politique. À force de vouloir caresser l'électorat dans le sens du poil, on en arrive là. Les dealers ont gagné, déplore encore Hervé, pas seulement. À Marseille, Benjamin temporise la proposition qui n'est pas nouvelle de la maire adjointe de Marseille, l'intervention de l'armée. Ce n'est pas la solution. Où est passé l'argent des différents plans de relance des quartiers? Et tous les politiciens sont responsables, s'énerve Thierry. Oui, aujourd'hui, la bataille est perdue face aux trafiquants. C'est la réalité.
Avant de continuer la discussion, je vous précise que le ministère public a requis aujourd'hui 5 ans d'emprisonnement, dont 3 avec sursis, contre l'ex-secrétaire d'État Georges Tron, lors de son procès en appel pour viol et agression sexuelle devant la cour d'assises de Paris. Et je rappelle qu'en 2018, bien que jugeant crédible l'existence de scènes sexuelles, la cour d'assises de Seine-Saint-Denis avait estimé qu'il n'y avait cependant pas de contrainte et donc prononcé des acquittements. La défense plaide aujourd'hui et le verdict est attendu mercredi. Nous poursuivons avec l'autorité parentale. C'est Franck qui est là, donc je le disais. Et Franck qui va peut-être conclure cette longue page que nous consacrons. J'ai envie de dire qu'on... Je ne vais pas dire qu'on enfile les perles, vous voyez, Franck, mais j'ai l'impression qu'on dit des choses... tous d'ailleurs assez banal sur l'autorité qui fout le camp entre guillemets, et je ne vois pas tellement de solutions sur ce que j'entends depuis 13h10, 13h02, 13h03.
Oui, bonjour Pascal.
Bonjour.
Merci de me prendre en ligne. En effet, je ne vais pas ajouter grand-chose à ce qui a déjà été dit, puisqu'en effet, comme vous dites très bien, on enfile des perles, c'est tout à fait ça. Tout fout le camp, l'autorité parentale, etc. Je penserais, moi, pour conclure un petit peu, que tout le monde n'est pas fait pour éduquer des enfants. Tout le monde n'a pas forcément cette capacité, cette affinité avec l'écoute, l'attention qu'il faut savoir prodiguer, l'autorité dont il faut savoir faire preuve. Alors certains n'ont pas, en effet, comme vous dites, des femmes seules ou même des hommes seuls aussi, ils peuvent être totalement désemparés par rapport vis-à-vis de leurs ados ou même de leurs jeunes enfants. Hein. Vous avez des jeunes enfants qui sont très très durs dès le départ.
Ça, je connais des pères, si vous me permettez, qui ont bien démissionné de l'affaire. Hein. Donc visiblement, les enfants, c'est pas ce qui les intéresse le plus.
Absolument.
Ça, je peux constater ça autour de moi, que ce qu'on me raconte parfois est assez terrifiant, disons-le.
Mais,
des pères qui ne sont jamais là, mais qui s'en foutent complètement. Quoi.
Mais qui s'en foutent complètement. Et j'en reviens à mon propos de départ. Tout le monde n'est pas fait pour assumer une paternité. Tout le monde n'est pas fait pour avoir des enfants. Moi j'ai commencé ma carrière il y a pas mal d'années maintenant. J'ai 50, quasiment 50 ans. J'entrais chez les gens, je travaillais beaucoup chez les gens. Tout type de milieux sociaux au début. Bon, maintenant je suis architecte d'intérieur. C'est vrai que c'est des gens qui ont un peu plus les moyens. Donc j'ai moins affaire à des gens qui ne s'occupent pas ou qui ne savent pas s'occuper de leurs enfants. Mais je me rappelle très bien qu'au début de ma carrière, parfois, au sein de certains foyers, quand j'entendais, quand je croisais des ados, même des pré-ados, même des gamins, et quand je les entendais parler à leurs parents ou à leur maman, si elle était seule, ou au papa, s'il était seul, j'hallucinais dans mon coin en faisant mes plans. Je me disais, mais c'est pas possible qu'ils se laissent parler comme ça, ou qu'ils laissent faire, ou qu'ils réagissent pas. Je pense qu'il y a des gens qui démissionnent, soit, mais il y a aussi des gens qui, au début, à la racine, sont pas faits
non,
pour
mais...
ça.
Non, sont
pas forcément faits pour ça. Tout le monde
non, mais je suis d'accord avec vous. C'est très intelligent ce que vous dites. Et simplement, on le sait après. Par définition, on fait des enfants souvent jeunes, entre 25 et 35 ans, et puis après, on s'aperçoit que...
Votre collaboratrice que j'ai eue au téléphone là, tout à l'heure, avant d'être mis en attente, me disait, mais il y a aussi la pression sociale. Et c'est tout à fait vrai. Il y a des gens qui vont faire des enfants parce qu'il faut faire des enfants. Et puis, il y a aussi l'horloge biologique pour les femmes, qui tourne beaucoup plus vite pour les femmes que pour les hommes, évidemment.
Là, on va enfiler encore des perles, hein, si vous me permettez, Franck. Bon, dernier témoignage sur l'autorité parentale. Restez avec nous, c'est Gilles, parce que Gilles est là. Alors, il arrive d'un autre monde. Il a 85 ans, Gilles.
Ah,
bonjour, Gilles.
Bonjour, monsieur Pro.
Alors là, donc 85.
Je suis agitateur, vous savez.
Mais bien sûr, donc là, vous êtes né en 36, nous sommes d'accord?
Oui, je suis né en 36.
Donc vos parents étaient nés sans doute dans les années 1905.
Non, 1910.
Bon, alors là, c'est un autre monde. La manière dont vous avez été élevé, Gilles, quand vous aviez 10 ans, c'est un autre monde.
C'est un autre monde, mes chers messieurs. C'est le monde d'après-guerre. Autrement dit, on avait une certaine liberté un peu excessive pour des caractères comme moi qui étaient du genre chahuteur. Et je voulais simplement dire qu'on avait à l'époque quand même trois autorités, la famille parfois, pas toujours, l'école, ça c'était très sûr, et le service militaire. Et j'insiste beaucoup là-dessus. La société a évolué, il y a eu mai 68, les problèmes, le travail, etc. Et on arrive en 97, où M. Chirac supprime le service. Et c'était c'était la dernière chose, c'est le dernier endroit où les jeunes apprenaient l'autorité. Et vraiment, croyez-moi qu'un service militaire, il n'y a pas besoin de faire des années, hein, 3 mois ou 6 mois de service militaire avec une rigueur extrême telle que celle qu'il y avait dans les années 60, croyez-moi que les jeunes apprennent l'autorité et savent ce que c'est que le respect de l'autorité. Mais malheureusement, aujourd'hui, plus personne n'y pense, parce que plus personne ne l'a fait, ou plus de gens. Et alors, que faire, hein? On glose, on dit, ah, on va faire ci, on intervient dans les quartiers, mais il faut d'abord, bon, on sait très bien que on a été confronté à un problème dans des milieux qui étaient immigrés, où on n'a pas traité du tout ce problème, on a entassé les gens dans des camps d'abord, puis ensuite dans des HLM, et ces gens...
Ah, non, on vous a perdu, Gilles, on vous a perdu. On a entassé des gens, on vous avait perdu. Vous disiez, on a entassé des gens dans des HLM.
Oui, j'étais. Oui. C'est cette époque où on a eu beaucoup d'immigration en provenance d'Afrique du Nord. On a entassé des gens. Et ces gens étaient habitués, les enfants étaient habitués à vivre dans la rue. En Algérie, au Maroc, les gosses vivent dans la rue.
Oui, sauf que quand ils naissaient en France, ils n'avaient pas l'habitude de l'Algérie.
Non, mais ils ont continué à vivre dans la rue. Et comme ces gens étaient livrés à eux-mêmes, il faut quand même regarder les choses en face. On s'en est pas beaucoup préoccupé. Et maintenant, on constate qu'il y a des phénomènes dramatiques. On sait plus que faire. Alors, on intervient à gauche, on met de l'argent à droite. On s'est dit, ça mène à rien. Rien n'évolue.
Bon, en tout cas, l'autorité, ça sera la conclusion de notre petit débat. Tout le monde est d'accord pour dire qu'elle est aujourd'hui entamée, l'autorité.
Entamée, c'est le moins qu'on puisse dire.
Bon, mais c'est vrai pour tout. Hein, je vous disais dans une rédaction, on est en 2021. Je peux vous dire que je ne parle pas à des jeunes journalistes comme on m'a parlé à moi quand j'ai commencé de bosser. Voilà. Parce que c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? On fait plus attention. Et est-ce bien, est-ce mal? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un fait. Je vous remercie, Gilles. Vous nous aviez appelé la semaine dernière, je crois.
Non, il y a déjà presque un mois.
Ah bon?
Vous avez appelé, oui, au sujet. Vous savez bien l'histoire des vieux et des jeunes.
Mais bien sûr, mais j'ai l'impression que ça passe vite le temps. Alors, j'ai l'impression qu'on avait poursuivez la discussion, hein, tous les deux,
oui,
c'était
le
formidable.
Vous aviez fait une émission sur le sujet.
Mais tous les jours, on fait des émissions sur le sujet, comme vous dites.
Mais je vous écoute tous les jours et j'essaie de vous joindre, mais c'est pas toujours facile. Hein. Bah, c'est très difficile. Mais...
Bon, bah, merci en tout cas. Vous connaissez Greg Paradoni alors, Gilles?
Qui est-ce, Greg Paradoni?
C'est le réalisateur de l'émission, Greg Paradoni.
Je n'enregistre pas.
L'école de l'humilité.
Greg Caradoni, parce qu'il a sa petite playlist de Mardi Gras. Vous êtes déguisé, Gilles, ce soir? Non, vous faites une petite
Ah, j'aimerais bien, mais là maintenant, mes enfants sont trop loin, mes petits-enfants aussi. Et donc, bon, c'est que j'ai passé l'âge un peu. Hein.
Bon,
mais
vous allez vous déguiser, Greg?
Non.
Non. Bon. Non, non. Et vous avez une petite chanson, parce que tout à l'heure, c'était pas terrible.
Non, mais vraiment, je trouve que la meilleure, c'est.
Ah, bah oui, mais.
Bah oui, mais.
Mardi gras.
Oui.
Mardi gras, qu'est-ce qu'on mange? On mange gras. Mardi gras, on mange des crêpes.
Mais Mardi gras, on le fêtait autrefois, mais ça a un peu disparu. Disons.
C'est vrai,
ça
c'est vrai.
Ça a été supplanté par l'importation de Halloween, qui n'était pas du tout de chez nous. Ça.
Exactement, comme la Saint-Valentin, d'ailleurs, on ne faisait pas ça forcément dans les années 70, mais il y a des nouvelles fêtes, et puis il y en a qui sont moins célébrées. Merci Gilles. Merci. On va parler du carême. Je disais, est-ce que des chrétiens font le carême? On sait que beaucoup de musulmans en France font le ramadan, mais est-ce qu'il y a toujours des chrétiens qui font le carême? Eh bien, j'ai posé la question et on va avoir des réponses dans une seconde.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Et avec Laurent Tessier.
Ah! Supporters du Paris Saint-Germain, nous vous attendons au 32-10, 8e de finale aller de la Ligue des Champions, ce soir contre Barcelone au Camp Nou. 4 ans après l'inoubliable remontada, le PSG peut-il faire oublier cette humiliation? Lionel Messi contre Kylian Mbappé, êtes-vous confiant cette année? Est-ce la bonne? 32-10. Et puis c'est Mardi Gras aujourd'hui. C'est vrai qu'en temps normal, on peut se déguiser, on peut faire la fête. Dites-nous, quel est votre meilleur déguisement? On a envie de vous avoir au 32-10.
C'est idiot comme question. Vous avez un meilleur déguisement?
Non, je ne sais pas. Batman, Superman,
choisissez. Vous êtes déjà déguisé en Superman?
Oui, ça m'est déjà
arrivé. Mais vous aimez ça, les soirées déguisées?
J'adore.
Vous aimez ça aussi, Greg?
Je n'y participe
justement,
pas.
Justement, c'est le jeu de savoir qui est derrière le costume, des fois.
Fatigue, les soirées déguisées. Oh. Ça m'a toujours. On s'amuse en pigeon bleu. Tu sais, c'est un peu artificiel. Mais bon. Alors, parlons du carême. Et je rappelle que le carême, effectivement, c'est à partir de demain. Et en fait, toutes les religions s'imposent, la religion musulmane, la religion chrétienne, s'imposent un temps dans l'année où on ne doit pas manger, parfois ne pas boire. C'est intéressant d'ailleurs, cette volonté chez les religions, j'allais dire de se punir. Mais bon, il ne faut pas le vivre comme cela. Mais en tout cas, une forme d'ascèse. Bonjour Françoise, vous êtes orthophoniste.
Oui, bonjour.
Alors, vous êtes chrétienne, vous êtes catholique.
Oui.
Catholique, vous êtes.
Oui.
Et vous faites toujours le carême.
Ben oui. Oui.
Pourquoi?
On fait le carême et depuis très longtemps. Pourquoi? Parce que alors c'était intéressant ce que vous disiez quand vous parliez d'une période de se punir. Moi, je l'ai jamais vécu comme une période de punition, mais plutôt. Comme une période un petit peu de retour à l'essentiel, c'est-à-dire de simplification. C'est pas du tout de la punition, c'est de la simplification. Alors quand nos enfants, nous on a 5 enfants, quand ils étaient petits, au moment du carême, voilà, on choisissait ensemble une association qu'on allait un peu soutenir. On faisait une journée par semaine un repas, une journée maigre, enfin pas maigre, pardon, une journée simple. C'est-à-dire que le midi, on mangeait des pâtes et le soir, on mangeait de la soupe, mais en quantité large. C'est-à-dire que personne n'a jamais eu faim. Et puis, à la fin du carême, on évaluait un petit peu à combien on avait économisé. Puis, on donnait cet argent à l'association qu'on avait choisie ensemble, en famille. On se mettait tous les 7 à décider. Aujourd'hui, les enfants sont grands, mais je pense qu'ils font encore. Ils font encore ce carême. Alors, pour moi, en tout cas, c'est plus... Un temps de réflexion un peu sur moi et de simplification. Alors, on choisit un effort de carême, mais moi, en tout cas, ça n'a rien à voir avec la nourriture, mes efforts. Parce que quand je mange pas, je suis de mauvaise humeur, et ça n'a pas de sens. donc voilà, on choisit un effort.
Et qu'est-ce que vous allez faire, par exemple, ce soir, à dîner?
Ah, des crêpes.
Ah oui.
Je ne vais pas me déguiser,
il me semblait que Mardi Gras, c'était les crêpes aussi. Ah, et donc, demain, c'est mercredi des cendres.
Ouais.
Hein, c'est Dies Siderum. C'est le jour des cendres en latin. Donc, c'est un jour de pénitence qui marque le début du carême dans le christianisme. C'est une fête, d'ailleurs, qui n'est jamais. C'est ce qu'on appelle une fête mobile. Hein. Elle n'est jamais le même jour.
Oui, oui.
Qui a lieu 47 jours avant Pâques, parce que Pâques peut être en gros du 20 mars jusqu'au début mai. Hein, c'est en fonction de la Lune. C'est assez compliqué d'ailleurs toujours de savoir quand est-ce...
Pas me demander ça,
non, c'est toujours compliqué. Ouais. Moi, une année sur l'autre, je perds l'explication. Et la veille du mardi, du mercredi des cendres, c'est donc aujourd'hui le mardi gras, et c'est le dernier jour gras avant le carême, et comme chacun sait, le carême va durer 40 jours. Ce chiffre 40 qu'on retrouve partout d'ailleurs, régulièrement. Non, mais c'est intéressant. Retour à l'essentiel, c'est ce que vous dites.
Ouais,
et vous avez dit que vos 5 enfants ont été élevés dans la religion catholique.
Ouais.
Ils perpétuent cette tradition ou est-ce que certains se sont éloignés, par exemple, du carême?
Il y en a 2 qui sont restés pratiquants. Il y en a une, la troisième, elle n'est pas du tout pratiquante, mais moi, je suis sûre que ce qu'on a semé, ça pousse quelque part. Et puis les 2 dernières, les 2 dernières, elles sont un petit peu. Enfin, si, la toute dernière, elle vient avec nous à la messe quand elle est là.
Mmh.
Et puis elle est engagée chez les scouts, donc enfin chez les guides. Donc voilà, elle a gardé ça a du sens pour elle, ça a du prix pour elle. Je dirais la troisième et la quatrième sont peut-être un petit peu plus en distance. Mais voilà. Après. Moi, ce que je trouve important dans cette période, c'est vraiment de trouver quelque chose qui, chez moi, a besoin d'être amélioré, d'être transformé, d'être peut-être, c'est un grand mot, mais d'être purifié, voilà. Et puis de travailler dessus. Alors, moi, j'ai besoin de petites choses concrètes. Alors, par exemple, c'est vrai que je disais à votre standardiste, régulièrement, quand c'est le carême, je fais l'effort, par exemple, en voiture, j'annume pas la radio. Et c'est un vrai effort pour moi, parce que je suis très, très accrochée à la radio. Et pendant ce temps-là, je prie pour les gens que j'aime, pour ceux qui sont malades autour de moi. J'essaye de recentrer un petit peu mes pensées sur des choses moins futiles que ce que je pourrais avoir d'habitude. Et puis voilà. On essaye là, par exemple, notre dernière fille est très, très, très bordélique. Elle nous a demandé ce week-end. Elle nous a dit, il faut que je trouve un effort de carême. Voilà.
Faut que je trouve un quoi, hein?
Un effort de carême.
Un effort de carême.
Un effort de carême.
Et donc, elle a trouvé depuis?
On a essayé de lui suggérer. Concrètement, voilà, est-ce qu'un quart d'heure par jour,
tu peux écouter les auditeurs la parole?
Non, mais tu peux faire un peu de rangement. Il faut que ce soit quelque chose d'accessible.
Bien sûr.
Dire, je vais moins manger, c'est trop flou et on le fera pas. Je vais être plus gentil ou je vais être moins ceci ou être plus cela.
Je peux moins manger, ça peut être facile, ça, de dire je vais diminuer ou je ne sais pas, je vais pas boire de vin pendant un mois.
Pas boire de vin, c'est pas pareil que moins boire.
Oui.
C'est quand c'est flou, c'est pas terrible.
Merci en tout cas, Françoise.
Je pense que j'ai pas été très claire, mais
parfaitement. Au contraire, chacun a compris votre engagement. Et alors, je rappelle évidemment que le christianisme, il y a trois possibilités, hein, catholique, protestant, orthodoxe, et que tous les catholiques sont évidemment chrétiens, mais tous les chrétiens ne sont pas catholiques. À tout de suite, on va être avec Antoine et Catherine.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Là, je vais peut-être ennuyer Antoine. Parce qu'Antoine, il est ingénieur commercial. Bonjour Antoine, vous êtes catholique pratiquant ?
Tout à fait, bonjour Pascal.
Mais vous savez que le carême, et vous pratiquez le carême ?
Alors,
parce que le carême, c'est jeûne, c'est pénitence, et puis il y a quelque chose qu'on oublie parfois, c'est abstinence, Antoine. mais ça vous fait sourire. Mais je ne sais pas si vous êtes marié, si vous avez un ami, une amie, je n'en sais rien. Mais a priori, pendant 40 jours, c'est autre chose. C'est dur, je ne sais pas, dit Grégory. Je ne sais pas, j'allais dire c'est Tintin, comme on disait jadis. A priori, c'est abstinence. Hein. C'est ça le carême, l'esprit du carême, Antoine.
Et bien justement, vous parlez d'esprit. L'esprit, pour moi, le carême, c'est quoi ? C'est le vivre, chacun le vit à sa façon.
C'est un peu facile.
C'est assez subjectif. C'est-à-dire que déjà, pour nous, dans la religion catholique, moi, je le vis comme ça, c'est repenser un petit peu à tout ce qui s'était passé, notamment pour Jésus, les jours dans le désert, la passion, etc. Et c'est clairement, c'est-à-dire c'est une petite période. Alors, on fait des efforts, bien sûr, toute l'année, mais sur cette période-là, je ferai plus d'efforts, je serai plus attentif aux autres, j'essaierai peut-être de diminuer telle chose.
Le jeûne, vous le pratiquez ?
Oui, tout à fait, le vendredi.
D'accord. Uniquement le vendredi ?
C'est le vendredi.
Donc là, le vendredi, vous ne mangez pas de la journée ?
J'essaye de le faire. Jusqu'à maintenant, j'y arrive. Après, c'est un petit peu compliqué parce que sur la route et tout, et puis il se peut qu'on ait des petites pommes, ça fait pas de mal.
D'accord.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que...
Et pénitence, c'est quoi le concept de pénitence pour un chrétien ?
J'ai pas envie de parler pour tout le monde. Après, je j'ai pas envie de dire de bêtises non plus, mais pour moi, faire pénitence, c'est de plus pécher, simplement. Pour moi, je vois comme ça.
C'est aussi se confesser et c'est faire le chemin de croix d'une certaine manière.
Voilà, c'est se confesser et puis aussi avoir l'humilité de pouvoir aller devant un prêtre et puis prendre un temps fréquemment dans l'année pour aller se confesser, ressortir, on va dire, plus léger, plus avec un cœur, on va dire, plus pur. Et puis là, du moins, pendant le carême, moi je l'impose à personne, je l'impose pas non plus à mon épouse, même si on va à la messe tous les dimanches, même si on y va avec nos enfants. Mais j'ai mes petites idées pour ce carême.
Ça est assez codifié. Par exemple, le pape Jean-Paul II avait proposé un usage plus modéré de la télévision pour faire pénitence pendant le carême. L'Église a assoupli les règles et les pratiques pénitentielles jadis, mais c'était parfois très... Certains se promenaient avec un cilice. Hein. C'était une manière de souffrir toute la journée en accrochant quelque chose à sa jambe. Il y a toujours dans les religions, souvent en tout cas, cette volonté de se faire mal, hein, parfois de souffrir. D'ailleurs, le mot passion, qui est mal compris parfois, passion, c'est souffrir. Hein. La passion du Christ, c'est la souffrance du Christ.
Après, il n'y a aucun texte, rien qui ne vous impose. Par exemple, demain, non, vous n'allumez pas la télévision. Demain, vous n'allez pas.
Non, c'est Jean-Paul II qui le proposait.
Ah, il le proposait. Ce sont des axes, justement. Ce sont des, des axes de réflexion et des idées, pourquoi pas. Peut-être, moins allumer la télévision pour plus ouvrir la Bible. Ou alors, peut-être, moins être sur son téléphone pour aller peut-être plus, vers les autres. Voilà, ils vont revenir un petit peu aux fondamentaux. Et c'est ce que moi aussi je recherche et ce que j'espère pouvoir tendre vers cette période de carême.
Vous êtes à Nantes, vous allez à quelle église à Nantes, Antoine ?
Alors, à la paroisse de la Madeleine à Nantes.
Elle est où la paroisse de la Madeleine à Nantes ?
Sur l'île de Nantes.
Sur l'île de Nantes. Bon, bah écoutez, merci Antoine de ce témoignage. Vous avez 30 ans, vous êtes un jeune catholique donc. Catherine est là également. Bonjour Catherine.
Bonjour Pascal.
Vous avez écouté l'abstinence, la pénitence.
Oui, tout à fait.
Le jeûne.
Antoine avait dit. Moi c'est vrai. Je suis commerçante, j'habite sur Saint-Malo, et je me dis que le carême, d'une part, je pratique le jeûne. Demain, mercredi des cendres, j'irai à la célébration des cendres. Et puis, je m'abstiendrai sûrement de manger, au moins demain, un petit déjeuner normal. Mais après, je m'abstiendrai de déjeuner, de dîner. Et les vendredis de carême, c'est pareil.
Chemin de croix, peut-être, parce que...
Le chemin de croix, oui.
C'est les vendredis, c'est ou le vendredi saint, ou tous les vendredis, certaines paroisses organisent des chemins de croix.
Et alors, la seule chose, c'est que moi, j'ai un commerce, donc c'est pas toujours facile.
Oui, c'est une sorte de chemin de croix, déjà.
J'ai un chemin de croix, peut-être avec les clients avec qui que je reçois. Mais non, parce que je me dis que ça va être peut-être un temps fort, justement, pour quand je vois les personnes qui rentrent, prier pour elles. Je me dis qu'il faut les accueillir. Et puis, ça va être un petit moment aussi de réflexion personnelle, de savoir me priver peut-être de télé, de petites choses, évidemment, matérielles, de petits carrés de chocolat avec le café tous les jours. Ça, c'est du détail, mais ça prendra un sens. Il faut savoir après.
Le jeûne, c'est un seul repas le soir, sans viande, ni œufs, ni laitage, ni vin.
Oui,
c'est ça le jeûne.
Nous pratiquions quand il y avait les vents. À l'époque, on pouvait encore se réunir en groupe. Il y avait le carême, c'était une pomme, potage, pain, potage, pomme, pain. Voilà, uniquement ça le vendredi soir. Et on avait un temps de réflexion liturgique sur un texte biblique qui était fait par un prêtre. Mais là, malheureusement, à l'heure actuelle, c'est plus possible. Mais ça n'empêche pas que, moi, je pratique tous les dimanches. J'ai cette joie-là. Et puis, je vais pratiquer, je vais faire très attention, prendre sur moi aussi. Prendre le silence, apprécier le silence autour de soi pour mieux admirer, pour réfléchir et vraiment me dire, qu'est-ce qu'une carême ? Et avoir la joie après d'arriver sur Pâques.
Merci beaucoup Catherine,
merci
beaucoup.
Pascal.
C'était intéressant cette petite séquence, Greg, avec nos auditeurs
Oui, absolument.
Catholiques.
Moi, c'est mon arrière-grand-mère qui faisait le carême et qui, à chaque fois, elle nous offrait des bonbons toute l'année. Et pendant cette période-là, hop, plus de bonbons.
C'est tout ce que vous avez retenu. Vous n'aviez plus de bonbons pendant le carême.
Pas du tout, mais attendez.
On parle d'élévation de l'esprit, qu'on donne à la vie, de réflexion sur soi-même. Et vous vous dites, je ne mangeais pas de bonbons que ma grand-mère me donnait pas.
Je peux, Pascal.
C'est vraiment, c'est un peu décevant quand même. Comme
anecdote.
Un petit peu, vous voyez, là on sortait quand même d'un débat qui était un peu plus élevé. Monsieur Bouchery est en train d'entrer dans le studio. Et on sera avec l'ami Georges Rau pour...
bien sûr.
Juste après 14h.
Il est prêt.
Il est prêt. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
14h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Franck est avec nous pour parler de la Ligue des Champions. Est-ce que le Paris Saint-Germain va gagner à Barcelone ce soir, Franck ?
Bonjour Pascal, j'ai peur du match de ce soir.
Ah bon ? Écoutez, non, Barcelone, ils ne mettent plus un pied devant l'autre. Yann Bouchery.
Bonjour à tous. 5 ans de prison, dont 3 avec sursis. C'est la peine requise contre Georges Tron pour viol et agression sexuelle. L'ancien maire Les Républicains de Draveil est jugé en appel pour avoir imposé des attouchements à 2 employés de la municipalité entre 2007 et 2010. Il nie en bloc ces accusations. L'avocat général a demandé que les 2 ans de peine non couverts par le sursis soient effectués sous bracelet électronique. Rappelons que Georges Tron avait été acquitté en première instance. Peut-être une éclaircie pour les salles de spectacle et à terme les théâtres et les cinémas. La ministre de la Culture Roselyne Bachelot a annoncé de nouvelles expérimentations. En mars, 2 concerts vont être organisés à Paris-Bercy et au Dôme de Marseille avec des milliers de personnes. Les spectateurs seront testés avant. Même les cas positifs auraient été acceptés dans un premier temps. Une hypothèse démentie ce midi par le ministère de la Santé. C'est une info RTL. Les sports et le 15 de France à l'isolement à Marcoussis. Des tests PCR ont en effet révélé un cas positif au sein de l'encadrement et un autre suspicieux concernant le sélectionneur Fabien Galthié. Le foot et Barcelone PSG ce soir en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Paris privé de Neymar et de Di Maria. Match à vivre dans RTL Foot de 20h45 à 23h. Les courses aujourd'hui à Vincennes. Les résultats provisoires du Quintet. Il fallait jouer le 2, le 12, le 6, le 7. Hélas, la météo, une perturbation pluvieuse s'étendra cet après-midi de la Belgique aux Charentes. Des nuages aussi en Méditerranée, partout ailleurs, le temps restera agréable. Les températures encore en hausse de 9 au Havre cet après-midi jusqu'à 22 à Tarbes. 14h02 sur RTL. Pascal Pro, c'est à vous.
À 14h02, on est avec, merci Yann Boucherie, on est avec Franck donc, qui avait peur ce soir pour la rencontre qui arrive. Franck,
oui, bonjour, oui,
pourquoi
oui.
Vous avez peur alors que Barcelone est en très grande difficulté?
Non, pas d'accord avec toi, parce que faut regarder déjà le dernier match de Barcelone ce week-end avec un Griezmann et un Messi qui reviennent au top de leur forme, ça c'est la première des choses. En plus, on sait qu'à Barcelone, avec la grandeur du terrain, c'est toujours très compliqué pour les équipes adverses. Et ensuite, moi, je suis quand même bien le football, et franchement, depuis le début de saison, je vois... Des belles stars à Paris, des bons joueurs, de très bons joueurs, mais je ne vois pas une équipe, je ne vois pas un collectif. Et franchement, je ne vois pas, l'envie vraiment d'être ensemble et d'aller chercher quelque chose. Et on l'a vu sur les derniers matchs, ça a été compliqué contre Nice, ils ont même perdu à Lorient. Donc franchement, pour ce soir, je crains vraiment quelque chose de très lourd.
C'est-à-dire ?
Ben, c'est-à-dire que je pense que Paris, ce soir, malheureusement, risque de prendre boire la tasse. Parce que, je vous dis, il y a Messi qui revient très bien avec Griezmann. Il faut voir les buts qu'ils ont mis dernièrement en championnat et en Coupe du Roi. C'est plus le Barcelone du mois de décembre où on avait le tirage au sort, où là, on se disait, bon, Paris a ses chances. Là, il y a eu pratiquement 2 mois qui sont passés. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué d'un côté comme de l'autre. Et moi, ce match me fait peur.
Bon, bah écoutez, moi j'ai moins peur que vous, mais comme je me trompe souvent en matière de football, je vais vous écouter, Franck, et vous remercier. Surtout, vous allez écouter ce soir, vous serez sur l'antenne de RTL, j'imagine, avec l'excellent Nicolas Georgerot qui est avec nous. Et je voulais l'avoir, Nicolas. Bonjour Nicolas, vous êtes à Barcelone ?
Bonjour à tous, tout à fait.
Alors, ce qui m'intéressait, Nicolas, c'est pas tant exceptionnellement qu'on parle football, c'est le parcours du combattant que vous subissez, vous, journaliste, comme n'importe qui d'ailleurs qui partirait de la France pour l'Espagne, pour être à Barcelone, les tests que vous avez subis, comment ça va se passer quand vous allez revenir en France ? Parce que ça m'intéresse fortement, Nicolas.
Ah bah, il n'y a pas d'exception, hein.
Bien sûr.
Effectivement, pour toutes les personnes qui sont amenées à se rendre à l'étranger actuellement, il y a beaucoup de formulaires et de procédures à faire, mais c'est vrai qu'il y a le test PCR sur les 72 heures. Il y a un long formulaire pour les autorités sanitaires espagnoles à remplir, que l'on doit montrer tout de suite quand on arrive à Barcelone pour donc les pouvoirs publics et les autorités pour en fait savoir si jamais on est cas contact de pouvoir remonter jusqu'à nous. Et puis ensuite, eh bien au retour de l'étranger, il faut être à l'isolement pendant 7 jours. Donc, me concernant à partir de mercredi, au retour du match, 7 jours en isolement et ensuite effectuer encore un dernier test PCR pour revenir sur le lieu de travail.
Pour revenir dans la rédaction, mais même votre matériel, parce que vous êtes là-bas avec votre Nagra, j'imagine. Votre Nagra.
Tout à fait.
Hein, non, mais c'est intéressant de le dire. Votre Nagra, vous ne pouvez même pas venir le déposer, me dit-on, à RTL.
Ben, c'est vrai, j'ai pas le droit de mettre les pieds à la rédaction pendant 7 jours.
C'est fou quand même.
À compter du retour. Puisque,
et ça, c'est vrai pour tous les salariés, bien sûr. Hein. RTL ne fait qu'appliquer le protocole qui est en vigueur. Mais alors, pendant 7 jours, vous allez travailler en télétravail.
Exactement, ça va être la donne pour. Pour moi, c'était le cas pour Brice Dugénie, par exemple, qui a couvert les élections aux États-Unis récemment et qui a aussi été à l'isolement pendant 7 jours et a travaillé de chez lui.
Mais c'est compliqué quand même parce que vous ne pouvez pas faire de reportage, vous ne pouvez pas aller sur le terrain de nouveau, vous pouvez effectivement faire des papiers de votre bureau chez vous ou participer à la vie de la rédaction de cette manière-là. Mais pour les entreprises, c'est quand même très compliqué. Si tu envoies quelqu'un à l'étranger, il est en difficulté pendant 7 jours.
C'est vrai que c'est assez compliqué d'être présent au Parc des Princes dimanche soir pour PSG Monaco, où je laisserai Philippe Sansfourche briller aux commentaires, puisque effectivement il y a l'impossibilité de pouvoir se déplacer hors de chez soi.
Bon, il fait beau à Barcelone ?
Il fait beau et légèrement couvert quand même, mais rien à voir avec la température. Il fait quasiment 15 degrés. Mon cher Pascal.
Bon, et je vous parle pas de votre ami Neymar, de toute façon, qui n'est jamais là pour les grands matchs. Ça devient un gag. Vous savez ce que je pense de votre équipe du Paris Saint-Germain, qui est en très grande difficulté, cher Nicolas.
Il n'y a pas Neymar, mais il y a Mbappé, il y a Icardi. Il y a des choses. Je partage en partie l'avis de Franck, qui était au téléphone précédemment.
Ah, vous êtes inquiet aussi, mais...
Ce n'est plus... Non, pas inquiet, pas jusque-là quand même. Pas jusque-là, mais ce sera un match plus serré que ce qu'on pouvait annoncer au mois de décembre lors du tirage.
Le dispositif ce soir, vous prenez l'antenne à quelle heure ?
20h45, 23h avec Eric Silvestro, Philippe Sansfourche en studio, toute l'équipe des sports pour faire vivre cette rencontre.
Et vous serez donc au Camp Nou vide, évidemment.
Vide. Camp Nou vide et nous n'avons aucun contact avec les joueurs puisque allant de pair avec toutes les restrictions sanitaires depuis hier et ce sera encore le cas après match, je serai présent par exemple en tribune mais pour faire une visioconférence avec Mauricio Pochettino et un joueur, ainsi qu'avec Ronald Koeman et un joueur. Voilà.
Et je voulais vraiment qu'on explique ça, parce que c'est une émission où on peut faire un peu de coulisses, et je pense que ça intéresse plus les auditeurs qu'on ne le pense souvent. Merci beaucoup, Monsieur Georges Rowe.
À très vite.
Hein, à très vite, vite. Et puis alors, à très vite, à danser. Vous rentrez demain ?
Je rentre demain.
Mais là, on ne se verra pas avant 7 jours.
Exactement, c'est je vais vous saluer à mon retour.
Bah non, vous n'aurez pas le droit. Ah oui, dans 7 jours. Dans 7 jours.
Vous parliez de coulisses, Pascal.
Oui.
Et vous évoquiez le mot nagra, qu'un certain nombre de nos auditeurs, j'imagine, ne connaissent pas.
Ah oui, bah, le nagra, c'est le magnétophone. Je pense que c'est dans la mythologie du reporter, le nagra. On parle toujours du nagra, Nicolas.
Bien sûr. C'est le nom, c'est comme. On va faire un. C'est comme Frigidaire pour le réfrigérateur. Voilà. C'est le nom de la marque, mais c'est. Cet enregistreur numérique qui permet aujourd'hui de faire...
Ah oui, parce que dans le temps, moi j'ai vu Christian Olivier couper avec ses ciseaux les bandes qu'il montait dans son...
Il en a coupé des bandes. Oh, il en a coupé des bandes.
Il a dans son placard magique des tonnes de comment dire, de fils, de bandes.
Ah, des guirlandes.
Des guirlandes.
Noël avec.
Mais je pense qu'il a Rod Laver, il a la première interview de Carlos Bianchi, des choses invraisemblables quoi. Merci ami.
À très vite.
Il est formidable Nicolas Georgerot. Bon, on n'a plus de musique en revanche. C'était bien ça aussi. C'était bien.
Hein, Mardi gras,
vous avez rien.
Les crêpes.
Mais oui, vous n'avez pas
beaucoup
travaillé. Mais
alors, du coup, ça me fait penser à ça.
Oui, mais alors là, vous allez avoir Christian Olivier qui va revenir et nous expliquer que la chandeleur, c'est pas des crêpes. J'ai rien compris la dernière fois de ce qu'il nous a dit. Donc là, je suis très, très inquiet. S'il débarque dans le studio, ça sera de votre faute. Hein. On va parler du PSG, puis il y a également les tests de Madame Bachelot qui souhaitait que des gens positifs entrent dans une salle de spectacle pour voir s'ils transmettaient le virus, ce qui était assez étrange. Et le ministère de la Santé a dit peut-être que c'est pas une bonne idée, Madame Bachelot. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
J'aime bien quand on a de la visite et en régie, c'est Jean-Alphonse Richard qui est venu nous dire bonjour, que vous pourrez entendre bien sûr sur l'antenne. Ah ben, il rentre dans le studio. Jean-Alphonse, venez nous dire un petit mot et votre prochain programme, c'est quoi ?
Alors, écoutez, le prochain programme, c'est ce soir, l'heure du crime.
À 20h.
Ce soir à 20h, oui. On est en
mais
train,
vous
on
terminez en... plutôt, parce que 20h45, non, match de foot.
20h45, avec ce soir les disparus du fort de Tamiers. Vous savez, les deux hommes qui ont disparu, et où Nordal Lelandais est plus ou moins suspecté d'être derrière cette disparition. Je suis en train de l'écrire là, vous voyez, donc tout se fait en direct.
Vous êtes venu nous dire bonjour.
Et je vous fais un petit coucou parce que comme je suis un de vos auditeurs assidus, voilà, je vais passer vous dire un petit bonjour.
C'est magnifique, c'est une maison, c'est vraiment, c'est un studio ouvert, merci.
20h l'heure du crime.
20h effectivement. Alors Sébastien Molina est là, on terminera tout à l'heure avec le Paris Saint-Germain, mais juste un petit mot de Sébastien Molina parce que les tests de Madame Bachelot, ça m'a quand même intrigué. Vous êtes directeur d'une salle de spectacle, Monsieur Molina. Bonjour.
Oui, bonjour Pascal, bonjour toute l'équipe. Le grenier bonjour. À Paris, le grenier du spectacle, tout à fait. Ouais, on est en attente, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de lieux, de pouvoir reprendre l'activité.
Bon, elle avait annoncé des expérimentations en mars et avril pour des concerts debout à Marseille et à Paris. Objectif, c'était de trouver un modèle qui permette la réouverture des lieux de spectacle. D'abord, je suis quand même très surpris qu'on attende le encore mars et avril. On ne peut pas faire ça depuis des semaines quand même. On est obligé d'attendre quasiment un an pour savoir si le virus se transmet ou pas. Première chose. La deuxième chose, c'est qu'elle avait annoncé que des gens... Des individus qui étaient positifs entreraient dans la salle. Et le ministre de la Santé a dit non. Donc si j'ai bien compris, on doit faire entrer que des personnes qui seront de toute façon non infectées. Donc quelle est la valeur de ce test? Puisque tout le monde sait, si c'est des gens non infectés, alors il y a peut-être quelques asymptomatiques, pourquoi pas? Mais ça me paraît très très étrange.
Bah, écoutez, vous avez résumé, vous avez bien tout résumé. Moi, ce que j'allais dire, c'est déjà pourquoi on a attendu autant de temps avant de lancer des process de test. D'autres pays en Espagne, ils l'ont fait bien avant nous. C'est un peu l'incompréhension de tout ça. Moi, je pense que ce qui pourrait être aussi très intéressant, on réfléchissait un petit peu, voir comment sécuriser nos lieux. Peut-être qu'il faut mettre en place un test salivaire, vous savez, comme les tests, les alcotests, par exemple, qui permettraient de savoir si les gens sont positifs ou pas avant de rentrer dans les lieux pour sécuriser ça. Peut-être que ce test salivaire peut être la solution. Après, il faut savoir qui les finance, parce qu'on a déjà beaucoup investi, les lieux de spectacle, les lieux de restauration, tous les lieux accueillant du public sur des gels, du gel hydroalcoolique, sur les masques, sur tout ça. C'est vrai que là, c'est un surcoût supplémentaire. Et à un moment donné, il va falloir savoir qui va payer la facture parce que il est vrai qu'il faut trouver à la fois des solutions pour reprendre la vie normale et rassurer les gens. Et je pense que ça peut rassurer les gens pour aussi ressortir.
Toutes les personnes seront testées avant le concert, avait-elle dit, et les cas positifs ne seront pas filtrés parce qu'il faut se mettre en situation où il y aura un brassage. Mais ça... Ça a été démenti tout à l'heure par Virginie Garin dans le journal de Christophe Pacaud. Et le ministère de la Santé a dit non, ce qui est plutôt logique. Tu ne vas pas créer un cluster. L'État ne va pas créer, au nom de faire un test, un cluster avec des gens qu'on ferait rentrer qui sont positifs pour après que d'autres attrapent le virus. Enfin, ça me paraissait invraisemblable.
Non, mais ça reste les absurdités administratives françaises qu'on vit depuis des mois et des mois sur plein de sujets. Et ça en fait encore partie. Donc... C'est vrai qu'on se demande comment les gens... Mais on est vraiment dans un monde de fous, Pascal. C'est incroyable.
Je pense qu'on est un peu dans un monde de fous. C'est-à-dire que, par exemple, les élèves qui sont à l'école, on pourrait ouvrir les théâtres pour les élèves. De temps en temps, ça ferait jouer, pourquoi pas, les comédiens. C'est-à-dire que Michel Boujna, par exemple, il n'a pas joué l'avare depuis 6 mois. Tu ouvres de temps en temps, l'après-midi, le théâtre, tu fais jouer les comédiens, tu fais venir des enfants de 10-12 ans. Plutôt qu'ils soient en classe, ils seront au cinéma. Franchement, où est le souci? Gérard est là également, directeur de cinéma dans l'Essonne. Bonjour Gérard. Ah, Gérard, il n'est pas prêt encore. Bon, bah écoutez, Sébastien, nous allons terminer ensemble. Vous avez une perspective d'ouverture, non? Évidemment, vous imaginez que vous ouvrirez quand?
Nous, on aimerait bien envisager la réouverture pour début avril, en espérant que ce ne soit pas un poisson d'avril, bien sûr. Mais pour l'instant, on n'a pas de perspective et je veux dire, toutes les informations sont très très floues par rapport à ça.
Mais il n'y a pas d'infos. Il n'y a pas d'infos. Et comme visiblement le gouvernement ne prendra aucun risque à ce niveau-là, on peut prier, ça va être le temps du carême, prier pour que l'épidémie arrête.
En tout cas, on va avoir besoin absolument, et je le redis, de vous les médias, quand on va rouvrir. que toutes les petites salles de spectacle, tous les restaurants.
Non, mais ça repartira aussi vite, vous verrez. Parce que les gens seront tellement affamés, vous verrez. Les gens repartiront.
J'espère que vous avez raison.
Mais non, mais François Langlais disait ça l'autre jour, les années folles, c'était reparti après la guerre. Ça repart à 100 à l'heure. Ça repart à 100 à l'heure. Ça, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Merci beaucoup.
Les artistes au grenier sont prêts à, et sur les starting blocks pour recevoir le public au plus vite et repartir avec de bons moments de rigolade ensemble.
A tout de suite, il y aura le débrief également vers 14h24. C'est toujours un moment attendu. Et Flavie Flamand sera là, évidemment, comme tous les jours, à 14h30.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RT. Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Gérard qui est directeur d'un cinéma dans l'Essonne. Bonjour Gérard.
Bonjour à tous.
Vous êtes un indépendant ?
Voilà, j'ai un cinéma à Palaiseau dans l'Essonne et je suis effectivement indépendant.
Donc j'imagine que c'est particulièrement difficile. Vous avez des aides ?
Mais écoutez, on est très très triste effectivement de ne pas réouvrir, mais on a des aides de l'État quand même. Mais l'impatience du public et la nôtre est énorme de pouvoir réouvrir nos portes.
Et vous arrivez à survivre ?
On arrive à peu près à survivre. On arrive à survivre, mais en fait, le problème, c'est le moral du public et c'est le moral des troupes qui est au plus bas, en fait. Et c'est pour ça qu'on attend avec une impatience énorme qu'on nous autorise à réouvrir.
Vous aimeriez un test pour les cinémas ?
Bah écoutez, on parle de test, mais il faut pas oublier quand même qu'on a rouvert le 22 juin jusque fin octobre. On a quand même eu 4 mois de tests pendant lesquels il n'y a pas eu le moindre souci, le moindre cluster. Donc on estime que les procédures qui ont été mises en place dans les salles sont suffisantes. Bon, après, si on nous demande de faire d'autres, de mettre en place d'autres procédures, pourquoi pas, mais une fois de plus, on a prouvé que c'était complètement sûr, parce que ça posait aucun souci technique et sanitaire que d'aller au cinéma.
Bah, c'est le sentiment qu'on a d'ailleurs, hein. Évidemment, c'est le sentiment qu'on a, mais malheureusement, il n'est pas partagé, Gérard. Je vous remercie.
Il n'est pas partagé par le ministre de la Culture, mais enfin, je pense que les scientifiques et le Conseil d'État sont d'accord avec nous.
Bah oui. Comme il reste juste 2 minutes et qu'on avait dit qu'on terminerait avec le PSG, il y a un supporter de Nantes qui supporte peut-être le PSG, oui, depuis très longtemps, qui s'appelle Sylvain. Bonjour Sylvain, et c'est avec vous qu'on voulait terminer en rappelant ce soir que l'antenne à 20h45, c'est Barcelone-Paris-Saint-Germain.
Bonjour Pascal.
Bonjour Sylvain. Vous êtes aussi inquiet que Nicolas Georgerot, que Franck qui témoignait tout à l'heure ?
Je ne suis pas inquiet, c'est pas ça. Je suis inquiet sur Mbappé en fait, parce que Mbappé, ce n'est pas un meneur de jeu. Et là, il se retrouve un peu seul avec Icardi qui est un renard de surface. Et j'en ai marre du marronnier du mois de février avec Neymar. Hein. Ça commence à me saouler, mais vraiment. Il n'est jamais là, quand il faut. Et je trouve qu'il y a une grosse pression sur Mbappé, là. Une grosse, grosse, grosse pression. Et j'ai regardé un peu les matchs du Barça depuis à peu près un mois, là. Et ça commence à revenir bien correctement, quand même.
Mais qu'est-ce qui vous inquiète précisément ce soir ?
Ben, je vous dis, on n'a pas de meneur de jeu.
Mais le fait que Barcelone, par exemple, soit un petit peu moins bon qu'il ne l'a été ou que les Barcelonais soient en difficulté, ça ne vous rassure pas ?
Depuis un mois, ils ne sont plus vraiment en difficulté, je trouve. Ils ont pris du poids de la bête. Et pourtant, je ne suis pas un fan de Messi, je préfère Ronaldo, mais il est encore là. Voilà.
Vous êtes supporter du PSG depuis 35 ans ?
Oui, j'ai tout connu.
Oui. Et parfois des déceptions importantes, notamment avec la remontada, la fameuse remontada à Barcelone.
Ouais, mais bon, j'ai connu PSG Real, j'ai connu Real PSG en match retour, j'ai connu Comboiré qui met une tête à la 92e.
Et qui est à Nantes d'ailleurs aujourd'hui. Est-ce que vous habitez Nantes, Sylvain ?
Oui, j'habite à Trentemoux.
Ah, Trentemoux. Mais vous êtes un Nantais ?
Non, ça fait 3 ans que je suis ici.
D'accord. Et vous étiez parisien peut-être avant ?
Oui, j'étais parisien. Oui.
Et vous vous plaisez dans la région de Nantes ?
J'adore.
Et donc ce soir, vous allez regarder le match ?
Non, j'ai pas les...
Vous n'avez pas Canal, donc vous allez l'écouter sur RTL.
Oui, je vais l'écouter sur RTL.
D'ailleurs, je ne crois pas que ce soit sur Canal, d'ailleurs, le match. Ce soir, je dis une bêtise. Voilà, il est sur... Je ne sais même pas sur quelle chaîne il est, pour tout vous dire.
Et pour revenir sur Nantes...
RMC Sport, effectivement.
Pour revenir sur Nantes, moi, j'ai tout J'étais supporter de Nantes, enfin supporter, j'aimais bien Nantes à l'époque de Ciodo, mais bon, c'est une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Exactement, maintenant c'est moins bien. Le débrief, merci Sylvain, le débrief avec Laurent.
13h, 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Je sais que vous commencez déjà à penser au débrief, c'est un grand moment de cette émission, il faut que je fasse attention.
Et un peu d'éducation ce midi. L'autorité parentale est-elle de moins en moins présente ? Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, était l'invité de RTL ce matin.
L'autorité parentale est de moins en moins là. C'est la faute de parents qui n'élèvent pas bien leurs enfants. Il faut arrêter de se mettre toujours du côté de l'enfant.
Gaëlle a été l'une des premières à réagir au standard.
L'éducation de nos enfants, c'est le rôle de tous, mais c'est avant tout le rôle des parents. Les enfants ont un certain sentiment d'impunité, et plus ça va, plus ils montent dans les classes, et plus ça va, plus ils n'ont aucun respect, ni pour les professeurs, ni pour leurs parents.
Et la question éternelle, est-ce que c'était mieux avant ? Yves a quelques soucis avec les ados.
J'interviens en collège. Je peux vous dire que sur une classe d'environ 30 élèves, le matin, vous avez à peu près le tiers qui somnole. Alors, question, pourquoi ? Et la réponse est toujours la même, elle est invariable, c'est-à-dire on a fait de l'internet, du chat, comme on dit maintenant, jusqu'à point d'heure.
Mais oui, mais c'est aux parents d'entrer dans les chambres à 9h, de piquer les écrans et les portables et de les laisser dormir, qu'est-ce que vous voulez que je dise ?
Mais attendez.
Allez, un peu d'autorité ce soir, quand ce sera l'heure du dîner. Voilà ce qu'on veut entendre, une bonne leçon, Pascal, non ?
Les donneurs de leçons sur l'éducation. Ah. Alors ça, je les attends, eux. Depuis des années, voilà, ils te donnent des leçons, voilà comment faut faire, voilà comment faut pas faire, et ça.
Mais allez, aujourd'hui, c'est un grand jour. Oui, c'est Mardi Gras.
Quel est votre meilleur déguisement ? Voilà une bonne question pour Mardi Gras.
Mais oui, très bonne question, mais d'où vient Mardi Gras ? Qu'est-ce que cela signifie ?
L'info pour briller au dîner.
C'est une fête chrétienne, n'oubliez pas, Mardi Gras. Hein, se déroule toujours 47 jours avant Pâques. Et elle marque la fin des 7 jours gras. Et Mardi Gras est toujours suivi par le mercredi des cendres et le carême.
Et oui, nous apprenons des choses dans cette émission. Et justement, vous avez remarqué, les auditeurs ont la parole, deviennent de plus en plus religieux. Oui, que signifie aussi le carême ?
Le carême, c'est jeûne, c'est pénitence. Et puis il y a quelque chose qu'on oublie parfois, c'est abstinence.
Non !
Ah bah oui, mais ça vous fait sourire, mais je sais pas si vous êtes marié, si vous avez un ami, une amie, je n'en sais rien, mais a priori, pendant 40 jours, chose, c'est dur, je ne sais pas.
Très bonne remarque, c'est dur de Greg Caranoni, abstinence. Non mais là, attendez.
On est chez les foot de toute façon.
Oui, exactement, et ce soir, il y a du football. 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Barcelone affronte le Paris Saint-Germain au Camp Nou. Un petit pronostic, Pascal ?
Barcelone, ils mettent plus un pied devant l'autre.
Eh bien, vivement ce soir, match à suivre sur RTL. Débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte en chanson parce que...
C'est bon pour le moral. C'est parfait,
comme d'habitude. Et celle qui sera parfaite, comme d'habitude, c'est Flavie Flamand, qui arrive avec son équipe de choc. À tout de suite.
Tu cherches à t'amuser, la compagnie va te chanter. C'est bon pour le moral.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.